Le journal, c'est avec vous, Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour Julie, bonjour à tous. Les États-Unis menacent de frapper la Turquie de nouvelles sanctions si le pasteur américain Brunson n'est pas libéré. Nouvel épisode de la tempête diplomatique entre Ankara et Washington autour de ce religieux accusé de terrorisme. Jean-Marc Chardon, ces nouvelles menaces n'arrangent pas les autorités turques qui essayent tant bien que mal de rassurer les investisseurs après la chute de la livre.
Du volontarisme à coup de déclaration aux investisseurs en général, aux industriels en particulier, c'est bien ce qui ressort de l'appel lancé hier par la Turquie. La démarche se comprend aisément quand la devise nationale est chahutée au point de perdre 40% de sa valeur depuis le début de l'année et que l'inflation accélère, eh bien ça freine l'appétit des marchés. La perspective de l'instabilité, c'est le début de la perte de confiance, alors même que la Turquie carbure à plein régime avec une croissance qui a bondi à plus de 7% l'année dernière et que l'économie turque s'ouvre de plus en plus. Plutôt encourageant, ces chiffres, à ceci près qu'ils trahissent une surchauffe économique alimentée par un endettement qui file à toute allure. Une forte dette privée en dollars, cela signifie une grande dépendance de l'extérieur. Telle est la grande faiblesse pointée par les agences de notation. Dans l'immédiat, les autorités espèrent trouver auprès des Européens un soutien effectif, notamment de la France, qui est le 13e client de la Turquie et surtout l'un de ses principaux investisseurs. Près de 400 entreprises sont installées en Turquie. Elles aussi se méfient de toute manifestation d'instabilité.
Précision de Jean-Marc Chardon. Son plus gros défi sera de renouer le dialogue social. Le Canadien Benjamin Smith a été nommé hier directeur général d'Air France KLM. Décision accueillie froidement par les syndicats qui s'opposent à ce choix d'un dirigeant étranger pour piloter l'entreprise franco-néerlandaise. L'Italie rendra hommage demain aux victimes de l'effondrement du pont Morandi à Gênes. Le gouvernement a décrété une journée de deuil national. Le dernier bilan fait état de 38 morts et 15 blessés. Ces personnes blessées sont hospitalisées à San Martino, à quelques kilomètres du lieu du drame, tout comme les corps des victimes, Delphine Evenou.
Alors qu'à 10 km de là résonne toujours le bruit des pelleteuses qui fouillent les décombres du pont Morandi, au bout d'une allée de l'hôpital San Martino, seuls les cigales et les oiseaux troublent le calme. Un escalier mène vers une chapelle. À l'intérieur, des religieuses voilées de blanc prient en rang et en silence. À leur droite, 15 cercueils sont posés sur des tréteaux. Parfois, les noms de familles qui y sont inscrits sont identiques. Une femme, robe noire, enlace de tout son corps l'un d'entre eux. Le visage crispé de douleur, elle n'arrive pas à s'en détacher. Les religieuses sortent de la chapelle. Elles croisent un camion de la Croix-Rouge déchargé de son matériel. Guido Saltini fait les derniers réglages.
On a monté une tente pour accueillir les familles des victimes et pour offrir un soutien psychologique et de quoi boire et manger. Les proches sont très silencieux, choqués, ils n'arrivent pas à y croire, comme tous les habitants de Gênes. On n'a jamais vu une chose comme ça.
Demain, le soutien discret dans la tente et le recueillement intime dans l'église céderont place à des funérailles nationales au Palais des Congrès de Gênes, une salle de 10 000 personnes.
Un reportage de notre envoyée spéciale Delphine Evenou. Dans les Alpes françaises, l'arrêté qui limite le flux de touristes au Mont-Blanc a été reconduit jusqu'au 17 septembre. La réservation dans un gîte est obligatoire avant de démarrer l'ascension du sommet. Des hauts sommets de plus en plus fréquentés, non sans conséquence. L'aura du lieu.
De plus en plus de touristes partent à l'assaut des sommets, mais ils sont de moins en moins expérimentés. Résultat, pollution, risque d'accident ou saturation des sites. Jean-Pierre Pillet est le maire de Saint-Gervais. Selon lui, trop d'idées fausses circulent sur la montagne.
À côté des alpinistes qui font normalement le Mont-Blanc, c'est-à-dire avec des gestes d'alpinisme, on a des gens qui s'imaginent que faire le Mont-Blanc, c'est facile. C'est tout sauf ça, quoi. C'est une montagne, c'est de l'altitude, c'est de la glace, c'est du froid, c'est du vent. On a maintenant une montagne qui s'est très urbanisée.
Une obsession de la performance qui s'éloigne de ce que devrait être l'expérience de la montagne, selon Freddy Maignan. Il garde le refuge du promontoire à plus de 3000 mètres d'altitude et il est président de l'ONG Mountains Wilderness.
Je trouve que c'est la reproduction en montagne de notre mode de consommation d'en bas. C'est-à-dire qu'on collectionne, on accumule, on achète, on fait des croix, on multiplie, on va vite, on en fait le maximum. sans forcément vivre les choses intensément et avec du sens, quoi. C'est une pauvreté par rapport à ce qu'on peut vivre en montagne, parce que de s'immerger en montagne, c'est une expérience de vie.
Pour préserver la montagne et faire renaître cette expérience, une prise de conscience a lieu parmi les professionnels de la montagne.
Nous avons une responsabilité à mieux montrer que la montagne, ce n'est pas simplement d'avoir fait un sommet, ou ce sommet-là, ou le plus haut sommet, c'est de tenter d'y vivre une expérience différente de notre vie citadine. On encourage plus à diversifier les expériences, à rallonger les séjours, à pas forcément toujours aller vite, à prendre le temps de vivre des expériences là-haut. Il faut une réaction des acteurs de la montagne, des institutions. Je pense qu'on peut avoir un bel avenir sur le tourisme en montagne.
Paradoxalement, parmi les 7 plus hauts sommets des 7 continents, le Mont Blanc est le seul qui n'est pas classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Les précisions de Laura Dulieu. La nouvelle peut surprendre tant l'écosystème médiatique semble se concentrer sur le numérique. Les JT de 20h de TF1 et France 2 ont vu leur audience progresser cette saison. En moyenne, plus de 10 millions de téléspectateurs se sont réunis chaque soir devant leur téléviseur. 5,7 millions pour TF1, 5 millions pour France 2. Ce sont 360 000 personnes de plus qu'en 2016-2017. L'analyse de ces chiffres, c'est avec vous, Clotilde Ravel.
D'abord, les chaînes ont repensé leur formule. Nouvelle présentatrice sur France 2, Wen-Sophie Lapix a remplacé David Pujadas.
Bonsoir, bienvenue dans le 20h. Que faire ?
Les JT ont également gagné en humilité, estime Virginie Spies, spécialiste des médias et maîtresse de conférences à l'Université d'Avignon.
Le JT a montré qu'il pouvait évoluer, en fait, hein, qu'il pouvait être un petit peu moins arrogant que ce qu'il n'était, notamment face au format du web, face aux réseaux sociaux. Et le journal télévisé s'est adapté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les grands JT de TF1 ou de France 2, on va avoir 10 minutes, un quart d'heure d'informations dites chaudes, et puis après, l'information plus de type magazine. C'est par exemple l'œil du 20h sur France 2.
Autre facteur, la démocratisation de l'usage du replay, mais aussi l'importance des programmes qui précèdent le 20h.
Là, il y a des locomotives en ce moment, aussi bien sur TF1 que sur France 2. Sur TF1, c'est Demain nous appartient, la série qui marchait pas très très bien au début, qui maintenant s'est bien installée. Et de l'autre côté, sur France 2, il y a l'émission de Nagui, qui est celle qui remporte absolument tous les suffrages.
N'oubliez pas les paroles tremplin pour le journal télévisé, autant d'ingrédients pour booster une machine qui n'avait pas cessé de perdre des téléspectateurs depuis 2008.
Les explications de Clotilde Ravel. Et aux États-Unis, toutes les chaînes ont interrompu évidemment leur programme hier au moment de la mort d'Aretha Franklin. Le cœur du pays est à Détroit ce matin. La légende américaine est restée fidèle à cette ville du Michigan où elle a grandi. Son père était pasteur à la New Bethel Baptist Church qui s'est transformée depuis hier soir en lieu de recueillement. Aretha Franklin, Save Me, 1967, Aretha Franklin qui restera donc par sa voix dans nos mémoires. Le temps de ce vendredi ensoleillé est toujours estival sur la majeure partie du pays. Quelques pluies localement sur le nord-ouest. Attention aux orages cet après-midi en Corse et en Occitanie. Et les températures en ce moment de 17 à Brest jusqu'à 28 à Ajaccio.